Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la première saison du podcast Le futur, c'est maintenant. Puisque l'instant présent, c'est très puissant, alors avec ce podcast, j'ai décidé de partir avec vous à la rencontre de personnes impliquées dans la construction du monde de demain et qui passent à l'action maintenant. Que ce soit des acteurs de l'éducation, de l'emploi, du recrutement, des étudiants ou entrepreneurs, je pars à la découverte de belles histoires et de témoignages afin de mettre en lumière des initiatives fortes et vous faire rencontrer un maximum de personnes inspirantes. Je m'appelle Paul Foutrel. Je suis entrepreneur et cofondateur de la startup Grimp et je me suis donné comme mission de faciliter l'accès à l'emploi à toutes et à tous. Je vous souhaite tout simplement une bonne écoute.
Salut Thibaut, du coup bienvenue sur cet épisode du Futur c'est maintenant. Je suis ravi de te voir du coup en présentiel, en physique. C'est vrai qu'on s'est fait 2-3 visios avant cet échange. Aujourd'hui tu gères West France Emploi si je ne me trompe pas.
Exact.
C'est un super site d'annonce d'emploi avec un bel impact local. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois, au menu, si tu es d'accord, c'est qu'on puisse revenir un petit peu sur ton parcours scolaire et professionnel, okay. Les quelques enseignements que tu as pu en tirer, et puis tu nous parles éventuellement des enjeux, des challenges du moment. Je sais que tu as une belle expérience en start-up, dans 2-3 boîtes, si je ne me trompe pas, comme Mon Docteur et Préto.
Exact.
Voilà, et puis à la fin, on pourra discuter peut-être un peu de... Des sujets de rentrée, par exemple.
Ça te va ? Sans problème. C'est un bon menu.
Ok, super. Du coup, toi, est-ce que tu es du Grand Ouest, du coup ? Parce que ça fait un petit moment que tu es dans le coin.
Ouais, je suis toujours du Grand Ouest. J'ai pas trop quitté le Grand Ouest. Je fais quelques allers-retours à Paris.
Ouais.
J'ai pas mal bossé pour des boîtes parisiennes, mais en restant à Nantes. Donc, d'accord. Plutôt pour développer le Grand Ouest pour des boîtes parisiennes.
En télétravail avant l'heure ?
Ouais, dès 2000. Ouais, dès 2015, ouais, déjà, ouais. Donc, mm-hmm. Mais c'était des boîtes plutôt sur des missions commerciales. Enfin, je vais en parler là, dans le parcours. Mais, donc, ouais, non, du Grand Ouest, je suis né à Caen.
D'accord.
Je suis de Normandie. Ouais. Et mon père est de la Sarthe et ma mère est de Bretagne. Donc, je suis un pur produit du Grand Ouest, okay. Ouais, pour le coup.
Normand et breton.
Exactement.
Est-ce qu'ils se disputaient pour le Mont-Saint-Michel ?
Ouais, non, mais du coup, là, il n'y a pas de débat.
Ok. Et j'ai vu que tu avais fait un IAE aussi. Du coup, tu as fait l'IUT, l'IAE.
C'est vrai que j'ai un parcours un peu pur produit universitaire, quoi, pour
d'accord.
Le coup. J'ai fait l'IUT de Caen. Là-bas, j'étais plutôt parti pour faire de la communication, des relations presse, voire même du journalisme. Après, je suis venu à Nantes. Enfin, j'ai arrêté quelques tours mes études pour voyager, notamment aller vivre en Écosse et apprendre l'anglais, parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Je parlais allemand quasiment couramment, mais je ne parlais pas anglais.
Comment tu as appris l'allemand, du coup ?
Ma mère a été traductrice d'allemand à un moment donné, et donc du coup elle avait pas mal vécu en Allemagne, et du coup elle m'a donné ce truc là, et dès 10-11 ans j'ai voyagé quasiment entre 8 et 10 fois en Allemagne, donc j'écrivais vachement à des correspondants et machin à l'époque, c'était marrant. Donc comme ça j'ai pas mal voyagé en Allemagne assez souvent, et à la fin je parlais vraiment très très bien. Et donc je suis quand même parti un peu en Écosse voyager, et puis et j'avais arrêté aussi mes études pour être attaché de presse sur et responsable partenariat d'un bateau qui faisait la Jacques Vabre. Donc pendant c'était assez marrant d'ailleurs, j'étais pris dans pas mal de d'écoles assez cool après mon IUT.
Ouais.
En fait j'ai tout plaqué pour gagner zéro et être sur un bateau toute la journée avec mes mails pour essayer de trouver des journalistes qui voulaient suivre le bateau et de l'argent pour financer les Jacques Vabre. Donc c'était assez marrant, mais le bateau a eu une avarie en plein milieu de Jacques Vabre, donc je devais aller au Brésil les rejoindre, mais j'ai pas pu, c'était un peu dommage. Donc du coup, j'avais 20 ans, je crois, j'avais 20 ans. Et c'est là où je suis parti en Écosse, en fait, voilà. Et après, du coup, je suis arrivé à Nantes pour faire continuer dans la communication en licence. Ici, il y avait une licence communication à Nantes. Je me suis ennuyé à mourir, parce que j'ai refait la même chose qu'à l'UT, et je me suis rendu compte qu'en fait, la com, c'était cool, mais... pour moi, c'était qu'un outil, c'était pas un truc que je voulais, sur lequel je voulais bosser. Et il y avait un master à l'IAE, un double master en management et en innovation. Mm-hmm. En gros, un truc en droit, économie, gestion, quoi. Et du coup, je suis allé là dans ce truc-là.
Ouais.
Et j'ai adoré. Et c'était assez marrant parce qu'on avait les mêmes profs que... j'ai un gros trou de mémoire sur l'école, la grosse école de commerce de Audentia,
ouais.
Mais du coup à l'IAE, donc on payait 500 euros notre année, et donc c'était plutôt accessible.
Ça ne faut pas trop dire, c'est peut-être plus d'actualité, je ne sais pas, mais c'était comme
non, à l'époque,
comme un hack, comme on dit.
Ouais, c'était un bon hack pour moi, ouais, j'avais pas les moyens de payer une école, et donc du coup c'était un bon hack, donc c'était assez cool. Et puis voilà, et je suis resté à Nantes depuis, je n'ai pas bougé.
Et sur, du coup ton master, tu avais des stages à faire, tu as fait de l'alternance, il n'y avait peut-être pas d'alternance.
Maintenant, je crois qu'il est en alternance, mais à l'époque, on n'était pas encore à fond dans l'alternance. C'était en 2010-2011, quoi.
Mm-hmm.
Et donc du coup, ouais, j'ai fait un stage de fin d'année dans une boîte qui s'appelle, qui était Kappa France là. Okay. Et du coup, j'ai fait mon stage chez eux et je suis resté chez eux après pendant 4 ans.
Pendant 4 ans.
Ouais. Et j'ai été, à l'époque, j'ai été recruté parce que ils lançaient une marque, ils venaient de racheter une licence de marque qui s'appelait les Voiles de Saint-Tropez, qui était une licence de nautisme quoi.
Ouais.
Et ils avaient aucune expérience dans le nautisme puisque Kappa c'était vraiment une boîte très orienté sport-co.
Je ne savais même pas que ça appartenait à Kappa, cette marque.
Alors, c'est une licence, donc en fait, licence, ils l'ont eu pendant 5-6 ans, et après, elle a été réexploitée par Norcel, il y avait Gastra avant qui l'avait, etc.
C'est le fameux polo avec les
gros marquages, les trucs, voilà, c'est la régate de millionnaires dans Méditerranée, quoi, qui a lieu en septembre.
T'as la même chose à Saint-Barth, je crois, les voiles.
T'as la même chose à Saint-Barth, mais c'est un peu plus petit, c'est vraiment énorme, c'était un truc... Enfin, c'était huge quoi comme événement.
Mm-hmm.
Et donc du coup, et moi j'avais vu que j'avais fait de la voile, j'étais dans le nautisme depuis longtemps et que j'avais été en plus attaché de presse sur un bateau.
Ouais.
Ils avaient besoin de quelqu'un qui savait faire ça. Ils m'avaient juste pris au début pour coordonner leur projet. Et puis en fait, à la fin de mon stage, ils m'ont filé la gestion de la marque. Donc c'était assez cool. Pendant 4 ans, j'ai géré une marque tout seul. J'ouvrais des boutiques dans le sud de la France, des boutiques éphémères. Gérer les grands comptes, le market, le e-commerce au début, c'était les débuts du e-commerce, donc comment on bricolait du e-commerce et tout, donc c'était assez cool. Et j'ai fait 4 ans là-bas. Et après, je suis parti du coup.
Pour quelle raison, du coup, t'as quitté Kappa ?
Je suis parti parce que c'était une boîte qui avait du mal à se lancer vraiment en full sur le e-commerce, il y avait vachement de réticence. C'était encore l'époque où les retailers. Ils avaient très peur des points de vente, donc des petits magasins.
Mmh.
Et en fait, le e-commerce, c'était un concurrent, en fait. Et du coup, ils ne comprenaient pas que si nous, on vendait en propre nos fringues, que eux, forcément, on pouvait faire du pick and collect chez eux, ça leur ramènerait du trafic dans les magasins, etc. Et à l'époque, il y avait une bagarre, en fait, qui était de dire on y va tout doucement sur le e-commerce, on ne développe pas trop trop fort, parce qu'on ne veut pas se mettre nos clients B2B à dos et tout. Et moi, en fait, j'avais envie de foncer dans le web. C'était les 2010, tu vois, c'était... Non, c'était 2011, moi quand j'y étais, je suis parti en début 2015, c'était le web, ça a explosé, le e-commerce, ça a explosé, il y avait des startups qui se montaient dans tous les sens et tout, moi j'avais qu'une envie, c'était de foncer dans ce milieu-là, et du coup, j'avais pas les moyens de développer ce genre de truc dans une boîte qui était une petite boîte, en plus, Kappa, ça faisait pas, c'était un truc qui faisait pas non plus des milliards de chiffre d'affaires.
Tu sais comment ça se porte aujourd'hui, moi je...
Ça va très bien. Ils ont eu des moments un peu difficiles, parce qu'en fait, ils ont racheté plein de licences, ils se sont vachement diversifiés, c'est pas super bien passé, je crois. Et là, ils se sont vachement recentrés sur les sportco, et ils cartonnent. Ils se sont fait racheter par la maison mère italienne, je crois.
Mm-hmm.
Et donc, du coup, ils cartonnent dans les sportco, ils ont plein de clubs, ils ont les bons pas de porte, ils sont bien installés et tout, donc ça, c'est cool.
T'as gardé quelques contacts, du coup, avec tes anciens collègues
J'ai encore quelques copains là-bas. J'en ai maintenant, ils commencent tous un peu à être partis, quand même. Ça fait presque 10 ans, donc forcément, mais... Et voilà. Donc,
la transition, là, le passage derrière, t'es parti dans la tech, du coup, dans le...
Ouais, derrière, j'ai vu... À l'époque, j'ai eu une annonce sur LinkedIn, je crois que c'était les débuts de LinkedIn un peu.
Il y avait Viadeo et LinkedIn.
Ouais, c'est ça, exactement. Viadeo était encore un peu dans le game.
Ouais.
Et j'ai vu un truc. Ouais, j'avais un profil Viadeo.
Moi aussi, on a tous eu un profil. Ça existe toujours.
J'avais même un profil Do You Buzz, le truc qui était du coup.
Pour faire ton CV là.
Ouais, le truc pour faire son CV.
Je crois que ça existe toujours.
Ouais, ça existe toujours. Ils ont pris un pont de marché un peu différent, je crois, mais. J'ai vu une annonce sur LinkedIn pour être directeur régional mon docteur. En fait, c'était en gros directeur commercial du Grand Ouest, quoi. J'étais pas particulièrement attiré par le fait d'être un sales à 100%, mais le projet était tellement ouf que je me suis dit j'y vais. Et j'ai débarqué à Paris. J'ai passé un entretien dans un vieux bureau d'avocat qu'on avait à côté de Beaubourg, je crois.
Ouais.
Il y avait 3 pièces, on était 12 là-dedans, ils étaient 12 là-dedans.
T'as rencontré directement
les fondateurs. Le fondateur et Henri, du coup, de l'Orgerie, qui était maintenant le patron d'Avisio, mais qui était directeur commercial à l'époque de mon docteur. Voilà, j'ai rencontré le matin à Paris, le soir il m'appelait, il me dit c'est bon, tu commences dans 3 semaines. 3 semaines après, je débarquais à Paris, je faisais mon onboarding et puis j'arrivais tout seul à Nantes. Et à l'époque c'était assez ouf parce qu'il y avait quoi, je sais pas, 300-400 médecins d'installés à Paris, ils n'avaient pas développé la province. Et nous, on partait, je devais être, je sais pas, le 15e ou le 16e salarié.
Ouais.
Et on partait, ils avaient recruté une grosse salle de directeurs régionaux, quoi. Et puis on partait à l'aventure, quoi. Mm-hmm. Je suis retourné à Nantes, j'avais mon ordi, une voiture que je louais chez Avis, une Twingo, quoi. Et puis je sillonnais tout le Grand Ouest pour vendre la solution au docteur, qui est Doctolib, hein, en fait. C'était exactement la même chose, on avait exactement le même produit.
C'était un peu la compétition à l'époque entre les deux.
Je pense qu'en termes de.
C'était la guerre même.
Ouais, je pense qu'en. franchement, j'ai en termes de concurrence, je crois que c'était un délire. C'était hallucinant. J'ai rarement vu autant d'animosité entre deux produits, deux équipes.
Vous aimiez pas, quoi.
On s'aimait pas, quoi. dès qu'on pouvait saper, on sapait. Ouais. Il y avait des trucs sales qui sont passés un peu quand même dans les cabinets et tout. C'était assez marrant.
Et comment tu démarchais, du coup, toi, les cabinets?
C'était à l'époque, on avait scrappé les pages jaunes.
Ouais, scrappé sur le web, puis aspirer les données.
Ouais, c'est ça. On avait scrappé toutes les données des pages jaunes, aspiré toutes les données des pages jaunes, qu'on avait remis dans Pinedrive, qui était notre CRM de l'époque.
Ouais.
Et du coup, on avait la liste. Donc, je sais plus, moi, dans le Grand Ouest, j'avais un truc genre 70 000 médecins chargés. Et puis, on avait la taille des cabinets. Donc, plus il y avait de monde, plus il y avait de contacts dedans, plus ça faisait des gros cabinets. Donc, on prenait les gros cabinets. Et puis, on sélectionnait des cliniques privées. Et des fois, je passais des journées entières à sillonner des cliniques, à taper au bureau des médecins, à essayer de décrocher des rendez-vous. Je fais ça quand même pendant 6 mois quasiment tout seul.
Ouais.
Et après, j'ai recruté une équipe de 15 personnes rapidement.
Et ça t'a pas donné envie de monter ta boîte juste après ?
Si, toujours. Mais je l'ai toujours dans la tête, je le ferai. Ça va arriver. Ouais. Je suis pas prêt parce que faut le sentir, ce genre de truc.
Ouais, bah c'est.
Il y a plein de raisons qui rentrent
en jeu. Il y a plein de raisons, il y a plein de paramètres, effectivement.
T'as le projet, la famille, l'argent.
Ouais, il y a plein de paramètres.
Tu connais ça mieux que moi. Ouais. Mais non, bien sûr que oui, j'ai eu envie de monter des projets. J'étais pas mal investi avec les fondateurs quand même dans la boîte pour je voulais avancer plus et tout, puis en fait un jour il y a un mec qui m'appelle un cabinet, je dis ouais qu'est-ce qu'il y a et tout, il me dit ouais il y a une boîte qui veut voir, enfin j'ai peut-être un truc pour vous, je sais pas quoi, je dis, non mais j'ai pas envie de bouger là, et il me dit bah écoutez c'est une grosse boîte parisienne qui une start-up parisienne qui veut se lancer, et là il me dit
on t'a démarché du coup il y a
un chasseur de tête
ouais. D'accord,
et le mec d'ailleurs on est toujours en relation, ouais. Il est super sympa, et
du coup t'étais en poste,
ouais, j'étais en poste chez Startup Palace, on était en train de se poser pas mal de questions sur le modèle qu'on allait mettre chez Startup Palace, il y a pas mal de mouvements, et le mec m'appelle à ce moment-là, j'étais pas ultra chaud. Et il me dit, il me reçoit, il m'explique le projet. Je dis, bon, en gros, encore à mon docteur, mais à mon docteur ou un Doctolib dans le crédit, quoi, en gros, qui cherche un mec. Et là, sauf qu'il me dit, ouais, mais
qui a un peu de bagou et qui est capable d'aller faire des ventes.
Ouais, c'est ça. Bon, pour remettre la chemise, là, je sais pas si je vais prendre ma casquette de Dirco régional, faire du tap-tap. Il me dit, non, en fait, c'est que de l'inside sales. Et en fait, c'est pas pour.
Donc, ça, juste pour ceux qui nous, écouteront, l'inside sales, c'est.
C'est sédentaire, quoi. Ouais. Commercial au téléphone. Ouais. C'est pour être courtier en ligne au téléphone. Et en fait, ils cherchent à monter un deuxième site. Ils ont un site à Paris, mais ils veulent faire beaucoup de croissance et ils veulent monter une équipe de 40 à 50 personnes à Nantes, dans un premier temps. Et là, je dis, ah, ouais, là, il y a un gros truc, en fait, parce qu'il faut que je monte un bureau, mon équipe. Donc, je suis directeur d'une business unit et d'un site, et en même temps, j'ai la responsabilité commerciale de l'équipe. Je dis, ah, ok, bon, écoute, je veux bien regarder. Et du coup, je vais à Paris et je passe un entretien avec Renaud et Pierre, donc les fondateurs de Préto.
Préto.
Et là, voilà, j'ai même pas hésité, quoi.
Ouais.
Voilà, le projet, il était ouf. Les mecs, enfin, les deux fondateurs.
C'était brillant. Ils sont toujours brillants.
Ils sont des mecs qui ont une vision, qui ont un applicatif et qui sont des dingues en exécution. Je sais pas, on était 25-30 quand je suis arrivé.
Ouais, t'as dû apprendre énormément de choses.
En 2019, la boîte, elle était déjà ultra câblée.
Ouais.
Voilà. Donc là, je suis parti 3 mois vivre à Paris. Donc là, j'ai laissé femme et enfant quand même à la maison.
Ouais.
Je rendais clé le week-end. Et j'ai appris à être courtier. J'ai appris tous les process de la boîte. Rien à voir avec ce que je
faisais. Ouais, c'est fou. Rien à voir avec le nautisme. Rien à voir avec
médical. Rien à voir avec le conseil en start-up.
En fait, c'est de ce que j'entends là, c'est que c'est vachement une histoire de rencontre finalement.
Moi, c'est toujours une histoire de rencontre et une histoire de vision, d'objectif dans les projets, quoi. Quand j'ai rencontré les mecs de mon docteur, ils m'ont dit on va révolutionner la santé, on va changer le game sur la santé en France, et ils l'ont fait. Voilà, aujourd'hui, on n'a jamais autant eu la possibilité d'avoir un rendez-vous en deux clics, tu retrouves tes ordonnances sur ton téléphone. Enfin, ça. Moi, quand je racontais ça à l'époque, quand j'ai commencé en 2015,
t'as un effet waouh, comme on dit, qui est incroyable.
Ouais. Les gens me disaient, t'es complètement dingue, qu'est-ce que tu fais? On prend rendez-vous chez un médecin pendant son téléphone, si vous voulez, internet pour le rendez-vous téléphonique, pour les rendez-vous médicaux. personne comprenait que j'avais un super job dans une boîte qui était quand même bien installée et tout.
Ouais, tu passais pour un extraterrestre.
Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu prends des risques, quoi, forcément.
Bien sûr.
Tu prends pas de risques. Enfin, t'as 26 ans, tu prends pas de risques.
Il m'est arrivé un truc comme ça cet été. J'arrivais pas à prendre rendez-vous sur Doctolib avec un médecin à côté de Perros-Guirec, en Bretagne-Nord. Et j'ai accès à une capsule, une boîte dans une pharmacie, là, et une sorte de box où tu fais ton rendez-vous en visioconférence avec un docteur.
Mais ça, c'est pas Doctolib, je crois.
Non, mais tu peux prendre rendez-vous via Doctolib. Ouais. Et en fait, tu vois, je me suis dit, c'est quand même spécial, t'as l'habitude d'aller voir ton médecin traitant. Et j'avais une petite appréhension avant d'y aller, un petit a priori. Et au final, super expérience. Je pense que pour 80% des pathologies, tu vois, ça suffit. Et en plus, tu as la pharmacie juste à côté, quoi. Tu sors de la cabine, ouais. Tu as la pharmacie. C'est déjà prépayé, plus ou moins. Le remboursement se fait. Et j'imagine que, tu vois, quand c'est arrivé, ça, ce genre d'innovation, ça a dû aussi bousculer pas mal.
Bah, surtout, quand on partait dans le médical, là, le monde médical, c'est quand même un monde pas très très avancé technologiquement parlant. Le mindset des médecins, ils n'avaient pas un mindset très moderne, quoi. Ils travaillaient sur des vieux logiciels, c'est les secrétaires qui répondaient au téléphone, qui prenaient les rendez-vous. Enfin, ils avaient une façon. Enfin, moi j'ai quand même des anecdotes où on a été acheter un ordi pour le mec parce que le médecin il était au papier, quoi. Voilà, ils avaient des agendas papier, quoi. Il y en a encore aujourd'hui.
Oui, puis il tapait dans son budget aussi. Bah dans son...
Non, parce qu'en fait, quand tu lui sauvais 3-4 rendez-vous par semaine, les mecs, ils s'étaient remboursés la solution. Mmh. Enfin, ça coûtait 100 euros par mois, même à l'époque.
Ouais, c'est top.
Donc, c'était ouf. Mmh. Mais qu'on était un peu des extraterrestres. Mais moi, je suis allé pour le projet, ouais. On va révolutionner, on va changer le truc. Pareil pour Startup Palace, c'était... en fait, on va lancer dans le Grand Ouest des programmes pour accompagner des entrepreneurs. Il n'y a rien ou pas grand-chose. Et on va prendre ce marché. Donc, je trouvais ça trop cool. Et j'avais vachement envie en plus de, parce qu'en même temps que de commercialiser ces accélérateurs, moi j'assurais et je montais tous les programmes de formation sur les stratégies commerciales, comment aller sur le marché, comment créer tes premiers.
Ouais, tu t'inspirais de tes expériences précédentes.
Tu t'inspires de ce que tu as vu en startup, dans des boîtes qui décollaient super vite, qui allaient très vite et tout. Et ça, c'était super canon. Et pareil pour Préto, les gars, ils avaient envie de. Voilà, aujourd'hui, ils sont plus gros sur Internet, enfin, en courtage 100% digitalisé, ils sont plus gros. Meilleur taux qui était le leader du marché encore 10 ans, tu vois. Donc, c'est pour des trucs comme ça que j'ai bougé.
Et ça se porte bien, Préto, là, avec la conjoncture actuelle, tu penses ?
Comme tout le monde, il grince un peu des dents, parce que
ça forcément, être facile,
t'as moins de ventes, s'il y a moins de liquidités sur les marchés, oublié, donc forcément, il y a moins de projets, donc ils font moins de deals. Mais aussi c'est dans ces moments-là où les moins bons sont en train de disparaître, quoi. Donc il y a aussi une offre de courtier il y a une offre de courtage qui est en train un peu de disparaître ou de souffrir très très fortement parce qu'en plus c'est quand même des modèles économiques pas pour les boîtes comme Préto mais pour les boîtes installées, mais je sais pas, 50% du courtage c'est quand même des indépendants et donc t'avais quand même des mecs avec des modèles économiques qui étaient branque-ballant déjà, où c'était un peu limite, tu fais pas un dossier, tu te payes pas, ce genre de truc. Donc il y a pas mal de gens aussi qui se sont mis dans le courtage, parce qu'à l'époque, le crédit c'était gratos, c'était facile de devenir courtier. Tu vends, quand un marché bat son plein et ultra liquide, si t'es mauvais sur un malentendu, tu signes quand même, quoi. C'est toujours ça. Et donc là, le marché est en train de se resserrer, il est en train de se professionnaliser encore plus. Et quand tu es une boîte comme Préto, qui a un outil technologique qui fait que concrètement, tu es en train de digitaliser, de faire du courtage augmenté, et quand tu offres une expérience aux clients et aux banques, pour le coup, qui sont leurs clients, qui est deux fois à trois fois plus cool que celle que tu peux avoir sur le marché, et qu'en plus, tu as une excellence opérationnelle dans ce que tu fais, globalement, c'est le moment où
Tu
pars.
Tu as juste le modèle et puis tu affirmes ta proposition de valeur, je pense.
Et oui, dans le BP, je pense que les gars, ils avaient prévu de faire beaucoup plus de croissance parce qu'on était c'est sur sûr. Des taux faibles. Donc là, ils font une croissance qui est forcément moins importante que ce qu'ils avaient prévu. Mais en revanche, ils sont en train de devenir encore meilleurs qu'ils ne l'étaient déjà. Donc je pense que quand on va sortir de la crise, c'est des boîtes qui vont tout péter, en fait, je pense.
Non, hyper intéressant. Et du coup, là, tu étais aussi directeur commercial chez eux.
Et du site de Nantes, parce que du coup, j'avais monté le deuxième site de production. Il y avait un site de production à Paris où il y avait toutes les équipes. Ouais. Et moi, j'avais un deuxième site où il y avait 45 personnes à la fin, je crois, un truc comme ça.
Tu as vécu des levées de fonds, du coup, chez Préto ?
J'en avais vécu deux, ouais.
Ouais.
Une ou deux, je ne sais plus, ouais. Deux, je crois.
Et t'as quitté Préto pour rejoindre...
Et j'ai quitté Préto pour rejoindre Ouest-France Emploi. Donc là, j'ai...
Pareil, tu t'es fait chasser par un recruteur ?
Là, je ne me suis pas fait chasser par un recruteur. C'est que la personne qui avait la direction de Ouest-France Emploi avant, c'est moi qui l'avais un peu...
Oui, tu l'avais accompagné sur son poste.
Ouais, je lui avais donné son contact parce qu'il cherchait quelqu'un à l'époque.
D'accord.
Et naturellement, elle m'a rappelé en disant « Écoute, je vais m'en aller. Est-ce que tu veux reprendre le poste ? Il y a un tel et un tel, on pensait à toi. » Et ils m'ont rappelé. Et voilà. Et en fait, là, c'était marrant parce que, pareil, c'était un projet, quoi. Parce que comme ça fait pas trop rêver quand t'es dans la tech de retourner dans un gros groupe, prendre la direction d'une boîte qui a un job board un peu old school, quoi.
Ouais, tradit, vieillissant.
Tradit, un peu vieillissant, ouais. Pas très très joli d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que.
Bah, ouais, toi, t'as vu le challenge.
Bah, moi, on m'a dit, faut remonter un truc qui va pas très bien ou qui s'est pas trop modernisé depuis quelques années. Et c'est ça qui est cool.
Ça t'a motivé.
C'est ça qui me motive. Ouais. Et du coup, c'est dur parce que quand tu reprends, quand tu restructures, quand tu vas reformater une offre, reformater la tech, reformater l'approche market.
Ouais, c'est une vraie conduite du changement finalement.
Ouais, tu dois tout changer.
Tout changer, ouais.
Tu dois tout changer parce que tu es dans un marché qui a explosé ces 5-6 dernières années avec l'arrivée. Enfin, Indeed est arrivé il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, quand Indeed est arrivé, il a profondément commencé à changer le marché de l'offre d'emploi et la recherche d'emploi. Et le work a complètement bouffé le marché. Pour la petite histoire, c'est très marrant parce qu'à l'époque, Ouest France Emploi et Région Job, c'était Ouest France Emploi le leader quoi, sur le Grand Ouest. Quoi. Et en quelques années, ils se sont fait tout manger. Quoi. Donc c'est drôle comment. Et le work a excellé dans la croissance et la capacité aussi à prendre ce marché, à devenir assez huge sur ce marché.
De ton regard, toi, tu l'expliques comment ça ?
Pour Hello Work ?
Ouais, je suis curieux.
Bah déjà, à l'époque, le fait de créer un site par région, donc il y avait quoi ? C'était quoi ? C'était West Job, Nord Job, etc. Travailler dans l'ultra local, ils ont une capacité rapidement à agréger beaucoup, beaucoup d'offres pour grossir très vite. Ils ont été excellents en SEO dès le départ, etc. Ils ont constitué une CV Tech rapidement qui permettait en fait d'avoir une espèce de deal flow de candidats à la volée. Et après, ils ont été très bons, je pense, et dans l'excellence opérationnelle, parce que quand tu fais une croissance comme ça, c'est que de manière opérationnelle, tu es quand même assez excellent. Et ils ont eu une activité de M&A qui était intelligente, qui leur a permis aussi, je pense, de créer du lead, en fait, avec des business parallèles et voilà. Et donc, ils sont devenus après un peu géniques. Je pense qu'ils sont arrivés au bon moment, ils ont lancé le truc au bon moment, ils ont eu le soutien d'un actionnaire et d'un groupe de presse qui est le Telegram, qui les a vachement soutenus, qui les a beaucoup aidés, qui a pas mal poussé, etc. Et comme peu de corps pour le fond, qui les a pas trop freinés d'un point de vue corporate, quoi, qui ont laissé faire un peu ce qu'ils voulaient, et qui leur ont fait super confiance. Et les gars ont fait un super boulot. Et aujourd'hui, ouais, c'est après Indeed, c'est le leader français.
Ouais, je pense, ouais. Et puis la marque, elle est... Il y a un gros travail de branding qui a été fait, je pense, sur la marque, sur... le logo, sur la com, je trouve que c'est...
Ils ont redesigné leur marque pour leur permettre de pouvoir, je pense, aller prendre un marché qui est européen. Ouais. Parce que quand tu anglicises le sujet, c'est que tu as forcément des velléités qui, je pense, européennes.
Oui, c'est sûr, tu as des perspectives de
développement. En tout cas, international, sinon, il n'y avait pas de raison, hein, je pense, parce qu'objectivement, le branding était quand même bon. Hein, dans Région Job, c'était un bon branding quand même, d'un point de vue local et tout. D'ailleurs, je pense qu'ils sont un peu plus éloignés du local, du coup, et ils sont pas mal devenus un peu nationaux et un peu gros. Mais forcément, hein, c'est le chemin que t'as pas le choix. Et
du coup, toi, en rejoignant Ouest France Emploi, t'as fait ta petite analyse des acteurs existants, j'imagine. Donc, t'as dû. Avant de te dire j'y vais pas, t'as foncé tête baissée, comment ça s'est passé
quand je suis arrivé, j'ai fait.
Parce que c'est un marché assez concurrentiel, quand même.
C'est un marché concurrentiel un peu opaque.
Ouais.
En fait, je suis arrivé, j'ai fait 3 mois d'audit en gros dans de la boîte.
D'accord.
J'ai audité Ouest France Emploi au sens propre du terme, quoi. Tech, finance, market, équipe, RH, tout ce que tu veux. Classique, quoi, quand tu reprends une structure. Et ensuite, je suis allé voir quasiment tous les concurrents ou tous ceux que je pouvais, pas mal d'acteurs du marché. J'ai fait, je sais pas, une trentaine d'interviews, une quarantaine d'interviews en externe sur des gens qui étaient dans le monde de la HR Tech depuis longtemps. Moi, je venais pas du tout de ce monde, je connaissais rien. Quoi. La seule chose que je savais, c'était recruter des gens, parce que ça, je le faisais depuis des années, mais c'est la seule chose que je savais faire. Quoi. Et en fait, déjà, j'ai eu vachement de mal à identifier la taille de ce marché.
Ouais.
Parce que LinkedIn communique pas sur ses chiffres, donc tu sais pas la part de LinkedIn sur la partie job board et offre. Hellowork pour le coup communique sur son chiffre d'affaires, Clever Connect communique sur son chiffre d'affaires, il y a Monster qui communique aussi sur son chiffre d'affaires et tout, donc ça allait, tu avais à peu près une idée, mais grosso modo tu sais pas trop quelle est la taille du marché. Et en plus de ça, le marché il est ultra hétéroclite, parce que quand tu parles d'annonces d'emploi, quand tu parles de job board, tu peux y mettre plein d'autres choses en fait, parce qu'il y a plein, l'annonce est un truc qui est aussi trusté par d'autres boîtes connexes dans la HR Tech qui vont faire, le mec qui a un ATS, bah, il peut aussi diffuser des offres d'emploi.
Ouais, c'est vrai.
C'est un marché un peu... voilà.
C'est nébuleux.
C'est un peu nébuleux. La première chose qui m'a marqué, c'est que ce n'est pas un marché très technologique, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Moi, je venais de boîte très tech, quoi. Tu vois, après tôt, on avait monté des algos de bourrin pour permettre à nos experts crédits, en une demi-seconde, d'être capable de savoir dans quelle banque tu pouvais placer ton client, comment tu allais le conseiller, le taux que tu aurais, moyen, machin, avec du prédictif en fonction des deals qu'on avait prévus. Enfin, tu vois, il y avait de la tech, quoi. C'était de la tech. Chez mon docteur et tout, c'était de la tech.
Bien
à
sûr,
l'époque, ouais. Et après, Doctolib, c'était de la tech. Là, je fais le tour des acteurs.
T'as pris ton bâton de pèlerin, t'as voulu dépoussiérer tout ça, quoi.
Ouais, exactement. Mais tu sais, je fais le tour, puis je fais, oh, en gros, c'est juste des plateformes web, quoi.
Ouais.
Pas beaucoup de tech,
avec
quoi.
des flux d'annonces,
des flux qui rentrent,
un accès candidat, un accès entreprise,
et un truc pas très compliqué en fait. Ah, du coup,
et le principe est le même plus ou moins dans tous les pays en fait. C'est
ouais, et du coup, tu te dis comment tu te fais une place dans ce marché, c'est quoi ta place, c'est quoi ta part de marché, tu vois, tous ces trucs là, fallait faire le tour, et c'est ce que j'ai cherché à faire. Et du coup, je me suis quand même rendu compte que en ASIO, ouais, je pense emploi avait 0,5 points de part de marché. Là, tu fais OK.
Pourtant, c'est une belle marque, Ouest France.
Ouais. Ouais, mais du coup, c'est
peut-être déjà, c'était moins connu. Du coup,
c'est moins connu, ouais. C'est dans l'Ouest. Et puis, ça a été, je pense, les 7 dernières années, d'un point de vue technologique, on n'avait pas vraiment trop avancé. Donc, on était un peu. On n'avait pas trop bougé. On s'était un peu assis sur la marque, sur la notoriété, sur un peu les gloires du passé. Quoi. Parce que c'est quand même. Tu vois, à un moment donné, dans le journal, il y a encore 20 ans, pour diffuser des offres d'emploi, c'était le journal.
Ouais, bien sûr, tu les avais sur ton papier,
et
ton
support papier. Le jour où ils ont transféré ça sur le web, je vous laisse imaginer la machine à cash que ça gérait. Enfin, c'est un délire, quoi. Le truc, c'est... On est arrivé sur Internet, on a mis ça, ça a cartonné super vite, encore plus qu'à l'époque, l'IMO et l'Auto, qui sont les deux autres grosses marques de Ouest France, qui sont Ouest France Auto et Ouest France IMO, parce que l'emploi, c'était tout le temps, tous les jours,
c'est un flux constant,
flux constant et tout, ça s'arrête jamais. Et donc ça n'avait pas trop bougé, et quand tu as 0,5% de points de part de marché, tu te dis comment, qu'est-ce que je vais faire dans ce marché?
Il y a un chantier énorme.
Et puis tu avais d'autres acteurs, comme tu as des nouveaux acteurs comme Welcome to Jungle qui venait d'arriver.
Ouais, sur des positionnements peut-être un peu plus niche à l'époque, un peu plus spécifique.
Ouais, plutôt tech, plutôt marque employeur, plutôt branding et tout. Et ouais, là du coup, j'ai fait ce petit tour.
Et t'as pas eu peur du coup de te lancer dans l'aventure? Ça a été quoi le déclic du coup? Et t'as dû aussi, j'imagine, prendre du temps avec les équipes en place en arrivant.
Déjà, il faut passer beaucoup de temps avec les gens.
Ouais.
Tu fais des one-one tous les jours, quoi, tout le temps avec tout le monde, au départ en tout cas. Tu dois évaluer les compétences des gens, leur capacité de résilience, leur capacité à changer, à bouger, leur niveau techno, leur niveau marque. Enfin, toi, il y a plein de choses à faire. Et quand t'arrives dans des boîtes comme ça aussi, t'as des gens qui ont vachement d'historique. Et donc, il y a plein de trucs à te raconter, en fait.
Ouais.
Il t'explique comment a fonctionné le marché avant, pourquoi ça marchait bien, pourquoi ça marchait pas, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé et tout. Et là, tu découvres comme ça, c'est aussi une bonne manière de découvrir ton marché. Et donc là, c'est là, si tu sais avec qui tu vas jouer, avec qui tu vas remonter. Je t'avoue que si t'as pas une bonne équipe, si dans l'équipe que t'as pas des gens de qualité, c'est sûr que tu peux pas, tu te lances pas dans l'aventure.
Ouais.
Tu dis pas, c'est reparti, quoi. Et moi, on avait des gens top, quoi.
Ouais, t'as eu un bon feeling avec les gens placés.
Ouais, on a des super.
Et t'as pas eu besoin de restructurer tant que ça, ou ça a bougé un peu, j'imagine.
Ouais, si, on a. Bah, tu fais. Tu changes pas un truc qui a pas trop bougé depuis 7 ans. Comme ça
bien sûr, ouais.
Je pense qu'une erreur que j'ai fait avec un an et demi maintenant de recul, c'est. J'ai voulu aller un peu vite quand même, parce que je viens du monde de la tech, tout va vite.
La clé, c'est la vélocité.
Déjà, même à la fin de mes 6 mois, j'ai pris un peu une grosse claque, quoi, en me disant, faut que je lève le pied, en fait, parce que je vais trop vite, je veux aller trop vite, Et j'ai pas la même vélocité dans une grande entreprise comme celle-là, dans des boîtes, quand tu veux faire du changement et tout, tu peux pas avoir la même vélocité que dans une start-up, t'as pas la même agilité.
Qu'est-ce que t'as pas frustré cette inertie au démarrage?
C'est toujours frustrant.
Ouais, c'est toujours frustrant, on a tous des frustrations au quotidien.
Moi j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de transformer vite, j'ai envie de prendre des marchés vite, j'ai envie d'attaquer vite. Et bah oui, forcément tu peux pas, t'as des contraintes DAF, des contraintes RH, des contraintes groupe, des contraintes machin, t'as plein de trucs. Donc ça c'est un peu le truc, quand tu passes de 10 ans dans la tech à un gros groupe, c'est un peu la grosse claque que tu te prends.
Ouais.
Ça c'est moi la grosse claque que j'ai prise d'ailleurs.
Ouais.
En revanche à côté, tu peux aussi prendre un peu plus de temps des fois pour développer des sujets, tu peux te planter un peu. Parce que bah, tu n'as pas de date de mort comme dans une start-up où tu es à court de vicage dans 6 mois. Quoi. Donc, si tu te plantes, bah, ça a moins de conséquences. Donc, tu peux quand même tester un peu plus de trucs. Tu peux un peu t'amuser.
Ouais,
tu
as un confort qui est...
Ouais, c'est un confort pour tester, quoi, que je trouve intéressant.
Bon, après, il ne faut pas non plus trop se planter. Ils avaient quand même un peu de pression, je pense, au démarrage.
Tu ne peux pas te planter. Et puis après... Après, il faut se lancer quoi. Il faut trouver c'est quoi le projet qu'on a réécrit, comment on se relance, et quelle place on prend quoi, dans ce marché qui est un peu bizarre.
Et avant de me partager peut-être quelques chiffres sur Ouest France Emploi, je me demandais quel est le lien physique avec les équipes de Ouest France, le lien que tu peux avoir avec le journal Ouest France, très concrètement.
Alors, c'est assez particulier chez Ouest France parce que déjà, le journal Ouest France, c'est le groupe Ouest France, donc c'est un énorme groupe. Hein. Ouest France, on ne se rend pas très très compte comme ça. Alors déjà, le quotidien ouestfrance.fr, c'est le quotidien le plus lu en France.
Voilà. Ouais, je l'avais tous les matins à l'époque quand j'étais chez mes parents.
Des fois, c'est touche-touche avec le petit déjeuner. Ouais, bah voilà. Ouais. Déjà dans le Grand Ouest, forcément, tout le monde le lit, mais même sur le web, c'est entre 170 et 200 millions de VU par mois. Donc c'est énorme.
Avec un abonnement aussi que tu peux avoir comme beaucoup de journaux.
Ouais, sur papier, etc. Ouais. Et c'est le premier quotidien francophone au monde. Donc c'est quand même, déjà, t'arrives dans un truc assez fat. Et en fait, ce groupe, c'est un groupe de presse, c'est une association. Donc déjà, c'est une particularité assez forte dans le monde de la presse et même dans le monde des grands groupes, quoi. C'est une association de loi 1901 qui est actionnaire majoritaire de tous les titres du groupe Ouest France. Donc dans le groupe Ouest France, il y a Ouest France, le Maine Libre, il y a... Presse Océan, le Courrier de l'Ouest, et puis il y a aussi le groupe Publié Hebdo. Donc là, dans ce groupe-là, il y a 70 hebdomadaires locaux dans toute la France. Il y a 20 minutes. Enfin bref, il y a plein de trucs.
Ouais, au-delà d'étudier ton marché en arrivant, il fallait déjà que tu comprennes comment ça fonctionne, quelle est la gouvernance.
Ouais. La gouvernance, que tu as le droit de faire, pas de faire, où est-ce que tu peux aller, comment tu peux créer des synergies ou pas, quels sont les assets du groupe que tu peux utiliser pour avoir une force de frappe plus rapide, etc. Et en fait, du coup, tu arrives dans une asso. Loi 1901, qui a été créée en fait pour éviter de se faire racheter et voir ce qu'on voit comme aujourd'hui dans la concentration de médias qui est un peu problématique, quoi qu'on en pense pour la liberté d'expression, etc.
Ouais, j'ai mon opinion sur le sujet aussi. Ouais.
Et donc, du coup, en fait, Ouest France, c'est un journal qui a jamais été. Qui n'a pas une ligne éditoriale ultra tranchée, c'est-à-dire tu ne sais pas si c'est trop à gauche, si c'est trop à droite, etc.
Ouh, ça fait, change en fonction des campagnes présidentielles aussi.
Exactement, et on s'en fout un peu en fait, parce que c'est un journal qui est quand même assez objectif, et vu qu'il est local, en fait on parle des trucs qui nous arrivent tous les jours, qui nous arrivent tous voilà. Et tu arrives là-dedans et on te dit, en fait, toi ton job, tu as le groupe Ouest France, toi tu es dans une grosse filiale du groupe Ouest France, qui s'appelle Aditi, qui est en fait la filiale un peu régie publicitaire, si tu veux, du groupe. Et toi, ton taf, en fait, c'est de remonter de l'argent là-haut pour que le journal il continue à fonctionner, qu'on ait toujours 600 journalistes qui soient libres d'écrire ce qu'ils ont envie et qu'on puisse diffuser de l'information sur nos territoires de manière la plus claire possible pour continuer à défendre la liberté d'expression, la démocratie, etc. etc. C'est un peu ça le why du sujet. Donc ça, c'est aussi un truc qui, moi, m'a vachement attiré et m'attire toujours et qui me fait un peu me lever le matin. Je connaissais Ouest France parce que du coup je gérais en partie leur accélérateur de start-up quand j'étais chez Start-up Palace, donc je connaissais déjà bien le groupe. Mais c'est un groupe qui a de très belles valeurs pour le coup, et tu sais pourquoi tu le fais quoi. Donc c'est un autre sujet quoi. J'ai répondu à ta question ou j'ai dit
Non, carrément. Donc du coup j'ai bien compris comment c'était structuré et le lien avec le journal Ouest France.
Le lien
même au niveau des équipes, des journalistes.
Parce que contrairement à pas mal d'autres journaux qui sont plutôt des journaux du coup qui n'ont pas la même philosophie, c'est-à-dire que chez Ouest France, la rédaction, elle doit être assez éloignée de la régie publicitaire et des sujets économiques, mm-hmm. parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait des connivences entre le journalisme et l'argent. Donc, Intel nous achète 3 millions de pubs par an, ça serait cool de lui écrire un article ou deux sympas. Parce que c'est ce qui se passe dans pas mal de rédacs.
Ouais, c'est bien de le dire en termes d'éthique, je trouve que ouais. c'est hyper inspirant.
Et tu vois, il y a des trucs, je ne sais plus qui s'était passé un truc avec un acteur bancaire, je ne vais pas le citer, mais qui avait fait, je crois, un séminaire dans un peu, tu vois, ils avaient claqué plein d'argent.
À Vegas.
Ouais, ou à Dubaï, un peu chelou, je ne sais plus ce que c'était. Et du coup, un journaliste écrit de West France commence à écrire le truc, et à l'époque, je crois que c'était « Bah non, mais écrivez pas ça, parce que du coup, nous, on achète ouais. X millions d'euros chez vous en pub à l'année.
Ouais. »
Et le journal
c'est vrai
a dit
qu'il peut y avoir des conflits
on va
l'écrire,
en fait. Ouais. Et on a perdu, je sais plus combien, 1 million d'euros de pub par an ouais. pendant 2 ans. Mais on avait fait le choix, là. Donc c'était... Tu vas pas aussi dans ce groupe-là que pour des sujets économiques. Enfin, tu vois, tu vas aussi parce que tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, en tout cas, nous, et moi, mes équipes, tous les jours, c'est ce qu'on leur dit tous les jours, c'est on travaille pour qu'il y ait un journal qui continue à être diffusé, pour qu'on ait des journalistes qui continuent à écrire et avoir de l'information, quoi. Et eux, ils nous le rendent parce que du coup, ce contenu-là, cette qualité de contenu, bah, elle nous permet, nous, derrière, d'aller faire du business et du coup, de trouver des moyens de financer tout ça.
Du coup, j'imagine qu'il y a un comité d'administration, un comité d'orientation. Comment ça se passe? Tu as du lien avec...
Alors, tu sais, c'est très gros, hein, ouais, bah c'est 3500 ouais. salariés. Donc,
toi, tu représentes
moi,
cette filiale. Quoi,
je suis directeur d'une petite filiale, d'une ouais. petite business unit. On est pas, moi, je suis la plus petite en plus. Hein,
d'accord.
On est un tout petit, on est un petit poussé parmi les autres filiales, nous. Et donc, du coup, tu es membre d'un CODIR qui est membre d'un COMEX qui est membre d'un. Enfin, tu vois, pff, je peux pas te faire l'organigramme, mais tu pèses pas grand chose. Mais tu vas pas proposer, tu t'en fous. Moi, j'y vais juste pour l'impact que je vais essayer d'y mettre. Ouais. Quoi. Moi, ma mission, c'est de relancer cette marque, westfranceemploi.fr.
Ouais, du coup, c'était ma question suivante, c'était si tu peux nous partager quelques chiffres, peut-être quand tu es arrivé,
ouais.
où est-ce que vous en êtes maintenant après un an et demi de, okay. de travail, qu'est-ce qui pour toi a bien changé dans la bonne direction? Tu nous as partagé peut-être un enseignement tout à l'heure, une petite erreur que tu as fait au démarrage en voulant aller trop vite.
Ouais.
Mais ouais, si tu peux nous donner un petit peu l'aperçu de West France Emploi avec quelques chiffres, c'est
quand je te dis que j'allais trop vite, c'est ouais. quand tu vas aller trop vite, c'est que c'est les hommes qui suivent pas, les hommes et les femmes de ton équipe, en fait. Tu vois, c'est plutôt ça, la problématique ouais. d'aller trop vite que j'ai eue. C'est pas forcément une problématique dans le changement du produit, de la tech et tout. On peut
ouais.
faire des choses, mais quand toi, tu arrives avec ton rythme de la tech dans des équipes qui n'ont pas ce rythme-là, et tu l'imposes, ça ne marche pas.
Et je pense que, tu vois, il y a un enseignement que j'ai... Alors, je ne sais plus où j'ai dû l'entendre ou le lire quelque part. Et pour moi, dans une entreprise, il y a deux manières de faire de la croissance. Il y a grandir et grossir.
Ouais.
Et de vouloir grossir trop vite, ça peut être ultra pénalisant. Et peut-être que tu étais dans une situation où, justement, il fallait plutôt grandir avec les équipes plutôt que vouloir accélérer et peut-être...
Ouais, c'est ça.
Tu vois, moi, j'ai un peu cette vision des choses. Je sais pas ce que t'en penses.
Nous, moi, je voulais regrossir parce qu'en fait, moi, j'avais appris qu'à grossir, en fait.
Ouais.
Moi, ça faisait 10 ans que j'étais picousé à grossir, quoi. Donc, moi, je suis arrivé, je me suis dit, on fait tant de chiffre d'affaires, il faut faire plus 30 l'année prochaine, plus 50 dans 2 ans.
Ouais.
Et puis, toujours avec cette vision, il faut que je valorise la boîte pour
ouais.
qu'elle soit bankable demain, revendable. Enfin, tu vois, c'était... Bon.
Là, t'avais pas cet enjeu, finalement, de valorisation.
Et en fait, voilà, tout. Bah, t'as toujours un
t'as
enjeu.
Toujours, t'as un enjeu.
Ouais. Toujours, c'est un enjeu. Tu peux... Bon, l'objectif de West France, c'est pas de milliards de ses filiales en plus. Donc,
oui, voilà. Et puis ouais, avant que West France Emploi soit racheté par
ouais,
un autre acteur, quand même.
Il y a de la ouais. route à faire. Enfin, ouais. Donc, ouais, maintenant je suis tout dans la perspective pardon, de faire grandir West France Emploi, grandir les équipes, accompagner les gens, etc. On a plein de trucs à faire. Donc,
mm-hmm.
En fait, je suis presque qu'au début. En fait.
Ça ouais.
fait déjà un an et demi que je suis là.
Mm-hmm.
Et en fait, je suis qu'au début. Et je pensais qu'en 2 ans et demi, 3 ans, j'allais plier la mission. Et en fait, je pensais
ouais.
qu'il va falloir un peu plus de temps.
Ouais, c'est cool. Du coup, partage-nous quelques chiffres.
Donc, moi, je suis arrivé, on faisait... En fait, je suis arrivé, on était vraiment une plateforme assez simple qui faisait, en gros, on avait une audience sur westfranceemploi.com. Et donc, du coup, on exposait des annonces là-dessus, sur cette audience, qui transformait en candidat. Et c'est ça qu'on vendait. On vendait des espèces des emplacements.
Ouais.
Ça s'appelle des emplacements là, donc, sur le site. Un peu une place de parking sur laquelle tu peux mettre autant de voitures que tu veux tant que t'enlèves la première voiture, quoi. Et puis tu changes tes annonces, quoi. Et c'est ça qu'on vendait depuis des années. Et on vend toujours, d'ailleurs, des annonces dans le journal papier.
Ce que tu justifies avec un trafic sur le site internet et de la visibilité.
Exactement.
Et du
et
flux
papier,
de candidats quand tu mets des annonces.
Ouais. Et le papier sur l'audience de ton journal
ouais.
Dans la zone géographique où tu es hyper ciblé. Voilà, du coup, tu peux pas trop mesurer l'impact.
Ouais, c'est ça qui est magique avec le web.
Ouais. Et le web, tu peux mesurer. Et voilà, on faisait un peu moins de 350 000 visiteurs uniques par mois et un peu moins de 20 000 candidatures par mois à l'époque. Donc, pas ouf, comme, enfin, pas un truc nul, mais pour ce qu'on était nous, et ce qu'on avait été, ce qu'on était capable de faire, c'était pas grand-chose.
Moi, j'aimerais de faire ça avec, avec ma société, tu vois. Bah, on y est pas encore.
Ouais, ouais, mais pour nous, à l'époque où des boîtes comme nous, on a fait peut-être 2 millions, tu vois, à une époque et tout, c'était pas grand-chose. Et des grosses problématiques de flux. En fait, une technologie qui avait été un peu superposée depuis des années, mais sans grosse réflexion sur l'architecture de ta tech, l'infrastructure que tu mets pour que ça tienne, etc. Une vision marketing assez, assez traditionnelle. On avait plutôt, on faisait un peu de marketing B2B, un peu de marketing B2C pour se faire voir.
En interne ou avec des agences, avec des prestataires ?
En interne, En interne. Et puis, voilà, et une équipe commerciale terrain, encore vachement terrain, très localisée. Je prends ma bagnole pour aller voir un rendez-vous sur des petits montants de chiffres et tout. Donc, voilà, mais ça fonctionnait comme ça depuis des années, tu vois. Donc, ça, c'est un peu l'état de l'art quand je suis arrivé. Et là, aujourd'hui, on fait pas loin de 550 000 visiteurs uniques par mois. Donc, on a quand même fait un bond de plus de 30% en termes de trafic sur la plateforme. On n'est pas loin des 40 000 candidats par mois, donc on a doublé le nombre de candidatures qu'on est capable de ramener à nos clients. On a refait une refonte complète de la techno, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui un truc où on a des flux qui fonctionnent bien, qui partent bien, etc.
Ouais, ça, c'est important d'avoir une techno que tu peux du coup faire grossir, faire grandir, passer à l'échelle.
C'est ça, elle ne pouvait pas passer à l'échelle.
Ouais.
On était c'était un millefeuille. Donc, à un moment, à chaque fois que tu rajoutais un truc, il y avait un truc qui pétait en dessous, il fallait trouver ce que c'était. Donc là, on a restructuré.
Avec le même directeur technique, avec le même équipe
plus ou moins. Non, on a vachement changé.
D'accord.
L'équipe technique a quasiment changé à 90%.
D'accord.
Ouais, pour le coup. Et qui était déjà toute petite à l'époque. Donc, bon, bref.
Pour les geeks qui nous écoutent, est-ce que tu connais la stack technique de West France Emploi? Est-ce que tu peux la partager déjà?
Si je vous la partage, je pense que je vais me gourer, donc je ne veux pas trop me rentrer dessus, mais on fait pas mal de... On travaille pas mal avec du Node.js, ça je sais. Après...
Donc c'est JavaScript, ça, si je ne me trompe pas.
JavaScript. Ensuite, on est GCP pour toute notre infra.
Google Cloud Platform.
Ouais, exactement. Et après, après c'est ultra simple. Après, on n'a pas une stack très moderne. On utilise... En fait, on a fait un truc, on a fait un move. Et là, je ne pourrais pas vous donner la stack technique exactement. Tu m'aurais dit avant, j'aurais préparé.
C'est pas grave.
Mais en fait, le westfrance.fr, le journal, est apposé sur une plateforme qui est une plateforme qui est capable de prendre la charge de millions et de millions de vues.
Et puis ça peut auto-monter en charge un peu automatiquement, auto-scale comme on dit, je crois.
Ouais, c'est ça. Okay. Et donc du coup, nous on avait vraiment la question qui s'est posée quand je suis arrivé, c'est est-ce qu'on casse tout et on part de zéro. Et là tu fais ouais, mais en fait on ne peut pas partir de zéro parce qu'on a 350 000 visiteurs uniques et 20 000 candidatures. Et,
ouais, là il y a un gros enjeu de référencement sur Google, SEO. Et tout, ouais,
donc
ouais.
Tu fais.
Migration comme ça, c'est costaud.
Je pars pas de zéro. Dans les startups avant, tu dis bah en fait, vas-y, on a trois clients, on pète tout, on remet tout en marche, et puis ça va le faire. T'inquiète pas, ça marche pas comme ça.
Nous, on l'a fait, ça a pris 3 mois.
Voilà.
Et on l'a pas trop communiqué, ça s'est plutôt bien passé, mais on était au taquet.
De soir quand même.
Ouais, surtout mon directeur technique.
Bah, imagine quand t'as 350 000 visiteurs,
c'est
impossible. Donc, moi, dans mon rêve, c'était de faire ça, mais. D'un point de vue business, d'un point de vue structurel, équipe et tout, c'était pas gérable. Et donc en fait, on regarde et on appelle le mec qui avait géré d'ailleurs, qui avait monté la plateforme de West France.
Mm-hmm.
On dit, mais en fait, là, il y a un outil techno qui est sur place, sur l'étagère, en fait, qui est ce qu'on appelle un block management system, donc comme un CMS.
Comme un site internet sur WordPress où on crée des sections, des pages.
Qui est capable de supporter beaucoup. Et en fait, tu crées des blocs.
Ouais.
Et dans tes blocs, en fait, une fois que tu as fait ta structure et ton architecture de site, dedans tu fais tous les blocs que tu veux et tu peux redonner vachement la main aux équipes métiers.
Ouais.
C'est-à-dire que tu
as un accès back-office.
Tu sors la dépendance tech de ton pour pouvoir mettre à jour en fait, ta plateforme, pour pouvoir la changer, pour pouvoir changer une couleur, changer du texte, changer même un design. Tu n'as plus besoin de la tech, quoi. Ou très peu. Donc tu deviens moins dépendant de la tech, ce qui était super important pour moi parce que je ne voulais pas avoir. une armada espagnole de techos pour une boîte qui fait pas assez de chiffre d'affaires et qui est pas assez grosse en volume. Et puis en plus, moi je raisonne vachement focus et efficacité, donc je m'étais dit bon, voilà. Et donc on refait cette refonte là et on retrouve en fait très vite, et là on migre en fait par petits bouts l'existant. Donc on prend le passé, puis on le découpe en petits bouts, et puis on prend ce petit bout là, et puis en fait on prend priorité par priorité, on découpe tout ça, donc on se met vraiment en mode agile, hein. Et là on fait plein de mini sprints et on vient claque migrer, tout ça. Bon, et le plus dur a été de migrer la base de données, parce qu'elle était un peu dans plein de trucs, on avait une infrastructure qui était assez parsemée, donc il fallait tout regrouper, savoir comment les flux fonctionnaient.
Ouais, puis beaucoup de tests, j'imagine, avant de tout mettre en ligne.
Ouais, plein de tests, plein de bugs, plein de trucs qui n'ont pas, plein de clients qui
se plaignent.
Qui tombé pendant un mois, parce qu'en fait, il n'y a plus d'annonces qui passent. Ah, j'avais pas, mais en fait, ce fil-là, on ne le connaissait pas. Et tu tires un fil, fait, ah, putain, c'est comme un plat de spaghettis, tu sais pas sur quoi tu tires.
Ouais.
Donc ça, c'est nos amis, on a commencé en juillet 2022, et là, on est en septembre, mais on n'a pas complètement terminé, je pense qu'on aura terminé vraiment à la fin de l'année. Donc ça, c'était le gros morceau, et après, l'équipe marketing, on l'a rebooté en une équipe grosse, en fait.
Ok, croissance, quoi.
Que faire la croissance, ouais. Comment aller chercher des nouveaux clients, comment aller chercher des candidats, et dedans, j'ai rajouté quelqu'un qui gère du contenu, parce que du coup, on ne faisait pas de contenu, alors que c'était la puissance de frappe du groupe et de la boîte à l'époque. Ce qui avait fait le succès de West France Emploi, c'était, je sais pas si tu as connu ça, mais ceux qui ont moins de 30 ans ne connaîtront pas, je pense, mais c'était le guide de l'emploi de West France. Toujours un énorme pavé qui fait, je sais pas, 100, 200 pages. Non, il y a toutes les formations et tous les métiers. Donc, si tu veux être plombier, bah, faut faire ça. Okay. Si tu veux être ingénieur, tu peux aller faire telle école, etc.
Ça aurait pu être pratique. Pourtant, j'ai passé les 30 ans, mais ça aurait pu être pratique pour moi à l'époque quand je cherchais. Quand tu cherches ton orientation. Par contre, j'ai connu avec Welcome to the Jungle les premiers catalogues Welcome to the Jungle.
Oui, ok.
J'ai connu ça avant, peut-être même avant le site web. Hein. Je sais plus c'était quoi leur premier produit, mais peut-être les deux. Mais dans les écoles, dans une école, ils distribuaient ça et c'était vachement bien fait.
Et ce truc-là était distribué pareil dans les écoles, était distribué dans la presse et tout. Et en fait, ils avaient chargé toutes les fiches emploi et toutes les fiches métiers sur West France Emploi. Et c'était au début du web. Enfin, c'était pas au début du web, mais c'est dans les années 2010, quoi. Et en fait, là, en référencement, West France Emploi était le truc le premier, parce que dès que tu cherchais un métier ou une formation, c'était West France Emploi qui te mettait l'info.
Ouais,
et t'arrivais sur l'article, et puis après, t'allais chercher, t'avais les offres qui étaient indexées et tout. C'était super bien foutu. Et on est revenu à ce truc-là, en fait.
J'ai une. Du coup, j'aimerais bien que tu nous pitches, que tu nous présentes la proposition de valeur de West France Emploi pour une entreprise. Tu vois, moi, je suis une entreprise, je suis intéressé par diffuser mes offres chez toi.
Ouais.
C'est quoi la promesse, du coup ?
Nous, notre mission, enfin notre vision, c'est qu'on veut rendre accessible à tous la communication sur l'emploi sur le territoire. Donc ça, c'est notre mission. C'est assez lié aussi à la mission du groupe, parce que West France, le journal, la mission du groupe West France, c'est d'accompagner les acteurs du territoire, leur diffuser de l'information, etc. On reste dans le why de notre boîte. Et notre mission, c'est de donner la possibilité à tous les acteurs de l'emploi de notre territoire de communiquer de manière simple et efficace. C'est vraiment ça qu'on veut, la simplicité et efficacité. Et on est spécialisé sur le secteur des métiers très opérationnels, donc jusqu'au bac plus 2, grosso modo. Grossièrement, il y en a qui appellent ça l'école bleue, mais...
J'aime pas trop cette appellation, col bleu, col blanc.
Ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est le métier opérationnel. Tu vois, jusqu'au bac plus 2, on sait sourcer, on sait aller chercher ça. Et plutôt pour les PME, les TPE et les petites ETI. Quoi. Voilà, ça, c'est notre credo. Et notre proposition de valeur, c'est...
Des boîtes qui n'ont pas forcément travaillé leur marque employeur, qui n'ont pas forcément un énorme service communication, un recrutement.
Ouais. En fait, le constat, c'est que 90% des boîtes qui font, enfin 90% de la visibilité un peu marque employeur, branding, recrutement, aujourd'hui, elle est faite par des gros groupes ou des très grosses ETI et ou des boîtes de la tech et des startups quoi, qui sont aguerris à ces sujets-là. Parce qu'en fait, c'est soit tu as beaucoup de moyens et tu peux communiquer facilement, parce que tu sais, voilà, tu as des équipes et puis tu envoies la sauce, et puis quand tu mets 100 000 euros sur la table, c'est facile de faire des campagnes de recrutement un peu partout dans le Grand Ouest, quoi.
Tu fais de la relation presse.
Ouais, tu fais des RP, tu fais un truc, enfin bref. Soit tu es dans la tech et tu es une start-up.
T'es frugal.
Et du coup, tu es un peu dans le gros hacking et tu sais comment utiliser les réseaux sociaux et te mettre devant tout le monde et puis aller capter de l'audience et de la valeur facilement. Et en fait, entre les deux, tu as des TPE et des PME n'ont pas de mecs qui sont forts en tech, parce que du coup, c'est des boîtes plutôt, souvent qui sont très opérationnelles, soit c'est des gens, enfin, tu vois, nous, c'est industrie agroalimentaire, donc c'est des lignes de prod, quoi, voilà, soit c'est le service à la personne, hein, donc femme de ménage, etc., soit c'est le service hospitalier, voilà, infirmier, aide-soignant, etc. Et toutes ces boîtes-là, elles n'ont pas... dans l'autisme aussi, maritime.
Ouais, soit c'est une question de ressources, soit finalement c'est une question d'ADN et de connaissance de ces pratiques-là pour travailler sa marque employeur. En fait, vous essayez de rendre ça accessible à ces acteurs-là, d'une certaine manière.
En fait, ils n'ont pas le temps.
Ouais.
Ils sont omnibulés par la prod, sortir en fait du chiffre d'affaires pour vivre, quoi.
Et pourtant, il y a des tensions sur le recrutement. Et pourtant, beaucoup ont des difficultés à recruter.
Ouais, mais ils ont peu de temps. Ouais. Ils ont peu de temps. Ils sont pas, c'est pas des aficionados du web, quoi.
Ouais.
Ils connaissent pas les métriques, ils connaissent pas les outils, ils ont pas le temps de travailler avec 5-6 outils différents. Et souvent, ils ont pas de moyens, c'est-à-dire qu'ils ont peu de personnes pour venir opérer des campagnes de recrutement et tout. Donc, quand tu proposes une campagne, un plan de communication marque employeur, déjà marque employeur, souvent ils savent pas ce que c'est.
Ouais, bien
sûr. Souvent, ça les énerve parce que pour eux, c'est un truc de parisien.
Ouais.
Ou une grosse boîte, donc tu fais ok, d'accord, on va pas parler de ça. Moi, j'ai plus de marque employeur à mes clients quasiment. Ouais. Et en fait, nous, on leur dit, bah en fait, tu prends notre truc, c'est plug and play, on diffuse tes annonces.
Ouais.
Tu retrouves tout sur notre plateforme. Nous, on multidiffuse partout.
Ouais.
Donc, on est connecté à quasiment tous les gros acteurs diffuseurs, multidiffuseurs français.
Donc, ça part sur d'autres sites d'annonces d'emploi pour que
agrégateurs
ton client ait plus de visibilité.
Exactement. Ouais. On lui gère son SIA, son SEO emploi. Voilà.
Ouais.
On est capable, avec un budget qu'on délimite, etc. etc. On lui gère son content, puisqu'on va lui écrire un ou deux ou trois contenus, pas plus, ça suffit, mais pour le mettre en avant, etc.
Avec des rédacteurs chez vous, quoi, directement.
Soit chez nous, soit
externalisé.
Et on lui gère son image et sa visibilité en lui mettant à dispo une page entreprise, une espèce de vitrine là, où les gens tombent dessus.
Comme on a sur beaucoup de job boards.
Sur plein d'autres job boards.
Bien sûr.
Mais nous, c'est vraiment nous ce qu'on met en avant. Un peu à la Welcome to Jungle, si tu veux, mais un peu différemment, plutôt très orienté Grand Ouest. Mm. Territoire. Et nous, notre force, c'est qu'on est capable de taper aux 20 km à la ronde de la boîte. Ça, on sait faire.
Ça, c'est top, ouais.
On sait le faire d'un point de vue parce qu'on a les audiences, on sait où on connaît on a les datas pour ça. Et de l'autre côté, notre journal, il est diffusé dans tous les bleds du Grand Ouest, quoi. Donc, on sait taper partout.
Ouais, c'est vrai qu'en tant que candidat, trouver un job, c'est pas uniquement aller sur Internet, envoyer des candidatures. Ouvrir le Ouest France et aller voir les annonces, ça peut fonctionner.
Déjà.
Ouais.
Même si... les gens qui lisent Ouest France ont plutôt plus de 45 ans. Tu vois, c'est plutôt du bouche à oreille. Donc, c'est plutôt ton grand-père, ton père ou ta grand-mère qui lit des offres d'emploi et qui te les file, toi, en tant que jeune, pour les jeunes, je parle.
Mais est-ce que tu encouragerais, du coup, un jeune diplômé d'aller ouvrir les annonces d'emploi sur, sur un journal papier, aujourd'hui?
Il devrait le faire, moi.
Ouais, okay.
Et je pense, et en plus, ce qui est assez cool...
C'est une bonne idée parce qu'on a tous le réflexe d'aller aujourd'hui s'inscrire sur LinkedIn, sur Indeed, sur Ouest France Emploi, sur le Work, sur...
Et je lui dirais d'aller lire parce que en plus, s'il va dans les pages de sa localité, il voit les actus en plus des boîtes du coin, quoi. Tu vois, et c'est quand même vachement différent parce qu'il y a un truc qui me fait moi qui me fait toujours marrer quand on parle de marque employeur. Quand tu t'appelles, j'ai pas de nom, mais il y a plein de boîtes de PME qui ont des noms qui sont inconnus et des marques qui sont inconnues au bataillon. Donc tu peux pas faire de marque employeur. T'as pas de marque.
Ouais, t'as pas de branding.
Souvent les PME, c'est quoi? C'est des sous-traitants, pour la plupart, en tout cas pour beaucoup. Majorité, c'est soit des sous-traitants, soit des toutes petites boîtes qui sont connues juste en local et tout. Tu peux pas faire de marque employeur. Enfin, ça me paraît très compliqué si tu veux. Et quand tu as pas de budget en plus, si tu peux mobiliser 5, 10 000 euros, peut-être le bout du monde, qu'est-ce que tu vas faire de la marque employeur? Quand tu sais combien coûte une campagne de communication, le branding, la récurrence qu'il faut avoir, enfin, ouais, c'est impossible. Donc, nous, notre taf, c'est de dire, mais en fait, donne-nous ta communication, ton emploi, on va la gérer. Et en fait, on va diffuser près de chez toi, où tu faut, au site qu'il te faut. En utilisant les outils du marché que toi, tu n'es pas capable de maîtriser, SEO, SIA, du coup, les réseaux sociaux, le brand content, etc.
Non,
etc.
Mais ne serait-ce que de se dire que l'annonce, elle part sur plusieurs sites d'annonces d'emploi. Est-ce que ça va aussi sur Google? Tu sais, les annonces Google?
Non, ça n'a pas encore... Si, ça peut aller sur les annonces Google. Ça dépend
Je ne sais pas trop comment ça marche, ça, encore.
Il faudrait que je redemande à mes équipes, mais en gros, il y a un...
Tu peux te connecter.
Oui, mais ce n'est pas très compliqué. Hein. Ouais. En vrai, ce n'est pas très compliqué. C'est juste je crois qu'il y a une histoire de plugin à mettre.
D'accord, ok.
C'est pas très compliqué. Et
Parce qu'une TPE, une PME, souvent on tape son nom aussi sur Google. Donc si tu as le Google My Business qui sort avec l'adresse, deux, trois photos, plus des annonces d'emploi, ça crée déjà un petit dynamisme, c'est pas mal.
C'est un peu notre délire. Nous, c'est qu'on va, quand on va récupérer et mettre en avant la page entreprise du client, donc déjà, Nous, si tu veux, on bénéficie de la force du domaine Ouest France, ouais. Sachant qu'en plus, d'ici la fin de l'année, on migre sous le domaine ouestfrance.fr. Donc, d'accord. On s'appelle ouestfranceemploi.com. Et à la fin de l'année...
Ouais, c'est un gros chantier SEO, comme on dit.
Ouais, c'est un gros chantier SEO, mais du coup, on va aller sous un domaine qui pèse 200 millions de visiteurs uniques par mois.
Top.
Donc, on va remonter en audience.
Ça, c'est un petit avantage concurrentiel. Voilà. Tu vois, quand un clin d'œil aux concurrents, quoi.
C'est vrai que ça, c'est assez cool quand t'es dans un grand groupe de pouvoir faire ça, par exemple.
Ouais, et puis du coup, je pense que t'as une sorte d'excitation de voir le résultat.
Ouais. Je pense qu'on va se prendre 3 mois dedans, parce que le temps que Google retrouve ses petits et que nous aussi, ça va mettre un peu de temps. Mais
les courbes vont être sympas à regarder, je pense.
Je pense que ça va être sympa. Et donc, donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de dire, en fait, tu vas avoir le nom de ta boîte, .westfranceemploi.fr ou westfranceemploi.com. Donc, tu vas avoir un nom de domaine qui est fort. Donc, quand on va taper ton nom dans Google, déjà, on va retrouver ta page d'entreprise assez rapidement. Donc, les candidats, ils vont pouvoir s'informer. Quand tu sais que 90% des recherches d'emploi, elles commencent par, en fait, aller regarder le nom de la boîte sur Google et s'informer sur la boîte, bah, en fait, nous, notre taf, en tant que émanation d'un journal, en plus, c'est donner l'information au bon endroit, au bon moment pour le candidat. Et voilà. En plus, après, tu reprends les Google My Business. Souvent, ces gens-là, ils n'ont pas de site carrière, les petites boîtes. Donc, en fait, le site carrière, ça devient notre site.
Ouais.
Et puis voilà, on y met les bonnes vidéos, les bonnes photos, on l'aide à écrire ses contenus.
C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a quand même un vrai travail d'évangélisation, finalement, sur le territoire, même aujourd'hui, en 2023, pour Ouest-France, non ?
Je ne suis pas un fan de l'évangélisation.
Ouais.
La bonne vieille blague de mon copain Florian Réou qui dit qu'il y a un mec qui a 2000 ans, il a essayé de le faire et il a toujours pas réussi.
Convaincre tout le monde,
Donc, non, on n'évangélise pas en fait, on va répondre à des problématiques qu'ont des clients et on essaie d'y répondre le mieux possible avec l'ensemble des outils et des produits qu'on a à disposition, quoi.
Ok.
Et notre proposition de valeur, c'est juste qu'on est proche des territoires, capable de donner et fournir un outil un peu plug and play à nos clients et on fait les trucs de manière juste simple et efficace pour que ce soit compréhensible par tout le monde rapidement.
T'as des commerciaux dans ton équipe ?
On en a 7, ouais.
7 ?
Ouais, on a 7 personnes, tous inside.
Ok. Enfin,
tous, du coup, sédentaires au téléphone pour le moment. On se déplace de temps en temps, mais en fait, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur le temps, etc., les timings, c'est pas toujours très simple pour les clients de nous recevoir, puis il faut se déplacer et tout ça. Donc, on fait pas mal de la distance.
Ouais.
Et on a en fait une équipe qui est divisée en 3 parties. En fait, on a une équipe d'acquisition, de business développeur, donc il ne faut qu'aller chercher de nouveaux clients. On a une équipe d'account management qui, elle, fait que entretenir
l'accompagnement,
des portefeuilles existants. Mm-hmm. Donc, en fait, on renouvelait des clients, upseller ses clients, leur apporter le niveau de conseil nécessaire pour améliorer leur référencement, améliorer leur page, etc., leurs annonces. Parce qu'en fait, un autre truc dans les TPE-PME, c'est qu'ils n'écrivent pas bien leurs annonces d'emploi. Donc, ils aident vachement à écrire correctement leurs offres d'emploi.
Nous, on a mis ChatGPT sur Grim pour aider le recruteur à faire son annonce d'emploi. Ouais. C'est pas trop mal le résultat. On l'a appelé GrimPIA pour le marketing. Mais il y a peut-être un truc là-dessus, avec de l'IA, sa propre IA.
On le fait déjà. Ouais. On utilise un peu ChatGPT pour ça aussi.
Ouais.
Mais en fait, on repasse tout le temps derrière.
Ouais, il faut repasser dessus.
Parce qu'en fait, ces boîtes-là, elles ont aussi besoin de singularité, d'authenticité. Donc en fait, on est obligé de venir mettre une
patte. Bien sûr, bien sûr.
Quand même derrière. Mais du coup, en fait, pour être assez transparent sur le sujet, nous, ChatGPT, sur les sujets de rédaction, que ce soit contenu rédactionnel, que ce soit les contenus sur les pages entreprises.
Oui, ça peut pas être magique non plus, quoi.
Ouais, mais ça nous fait gagner. On a divisé par 3 nos temps de production.
Ah ouais, c'est incroyable. C'est cool. Ouais, c'est cool.
C'est-à-dire que t'es pas obligé de recruter une équipe de malades pour faire ça.
Ouais.
Et par ailleurs, tu vas plus vite en prod, t'es plus efficace, etc. Donc c'est assez intéressant. Mm. Mais tu relis, mais tu repasses, mais tu réécris.
Ouais, ça
et
donne
des optimisé en SEO.
Pour le SEO, ouais. Donc, est-ce que tu as un prompt ingénieur ? C'est le métier à la mode chez toi, pas encore ?
On n'a pas de prompt ingénieur, mais la personne qui gère le gros, c'est le market chez moi.
Il n'est pas mauvais.
Il s'excite bien sur ChatGPT.
Et vous avez testé le concurrent de ChatGPT chez Google ? Je crois que c'est Bard ou Bart ?
Non, on n'a pas encore testé.
Ah, ça, c'est pas mal aussi, moi, il faudrait que je teste.
Okay. Après, on attend un peu de voir, nous, parce que tu sais, dans un gros groupe comme nous, il va y avoir une cellule qui va s'occuper d'aller.
Bien sûr.
Aller taper tous les trucs d'IA pour savoir comment on peut les exploiter demain. Donc, on va aussi essayer d'attendre de bénéficier de tout ça.
Bah écoute, Thibaut, hyper intéressant cet échange. Vous avez des annonces d'alternance aussi sur Ouest France Emploi ? Stage et alternance ?
Pour nous ou pour.
Du coup, est-ce que les entreprises publient des annonces de stage, d'alternance aussi ? Un petit peu ?
Pas mal.
De plus en plus ?
De plus en plus.
Et est-ce que des écoles publient des annonces pour attirer des candidats sur Ouest France Emploi ?
Alors, en fait, c'est un peu différent chez nous. On a un truc formation qui est spécifique à Ouest France, qui s'appelle Ouest France Formation.
D'accord.
Et là, les écoles, les universités, les CFA, les centres de formation, publient, en fait, achètent des vitrines chez nous et publient leurs annonces.
Ok, ah, c'est pas mal.
C'est le prochain chantier que je vais attaquer. Comment faire merger les offres d'alternance que j'ai sur la plateforme avec des offres de formation pour les organismes de formation.
Top.
Mais on va essayer de faire ça de manière assez simple et efficace. C'est pas un business model en soi pour nous. En revanche, c'est une vraie proposition de valeur pour les candidats. Parce que bon, c'est la galère qu'ils ont à trouver des alternances aujourd'hui.
Ouais, il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus de concurrence. Ouais.
C'est un marché qu'on a regardé.
C'est très dynamique.
C'est très dynamique, il y a plein de trucs à faire, donc je pense que c'est canon.
Cool.
Et vous avez bien fait d'y aller. Le
podcast s'appelle Le futur, c'est maintenant. Qu'est-ce que ça t'inspire, pardon, cette phrase ?
Moi, tu viens de parler d'IA. Et moi, en fait, je suis assez. Je suis assez dubitatif par rapport au sujet et l'excitation qu'il y a autour de l'IA, en fait, parce que c'est canon.
Ouais.
Ce qui se passe, je pense, ça a profondément changé des métiers, etc.
Mais tu restes peut-être très rationnel.
Mais en fait, je reste ultra rationnel. Enfin, on a vu ce qui s'est passé dans les années 2000 avec le web, quoi.
Ouais.
Bon, on va vivre la même chose. Donc, je pense qu'il va y avoir un peu de tout et n'importe quoi pendant les 10-15 prochaines années, comme il s'est passé sur le web les 10-15 prochaines années. Jusqu'à ce que le législateur commence à légiférer et puis qu'on commence un petit peu à structurer.
Ouais, parce qu'il y a des enjeux RGPD autour de tout ça.
Mais en fait, je pense que c'est excitant en fait.
Enfin, ouais.
Moi, je vois le truc, l'humanité a toujours fonctionné comme ça,
ouais.
Elle va pas s'arrêter demain.
Mm-hmm.
Donc, le futur, c'est quoi après l'IA? C'est ça qui va me faire marrer.
On revoit la question et ouais, là-dessus.
Et non, et après le futur.
C'est le sujet du moment, ouais.
Le futur, c'est aussi. Ce sera peut-être entreprendre pour moi, à titre perso.
Ouais.
Mais, voilà.
Bah, si c'est maintenant, alors. Encore quelques chantiers chez West France Emploi.
Tout à fait.
Ok, cool. Bon, bah, si on est une entreprise et qu'on veut diffuser ces annonces, il suffit d'aller sur le site internet que tu as cité tout à l'heure.
Ouais, on a un espace recruteur. Tu cliques, il y a un formulaire et hop, c'est bon.
Et on peut démarrer avec une première annonce assez facilement, j'imagine.
Il faut 24-48 heures le temps après qu'on ait validé le truc, même pas. Ouais, ça va assez vite.
Merci Thibaut pour cet échange.
Merci.
Et puis à très vite. Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.